Voilà le jour. Un beau soleil resplendit dans un ciel d'après-midi. Un serviteur des trois mages traverse la place et monte le petit escalier de la maisonnette. Il rentre. Il sort. Il retourne à l'auberge. Les trois mages sortent, suivis chacun de son propre serviteur. Ils traversent la place. Les rares passants se retournent pour regarder les majestueux personnages qui passent très lentement, avec solennité. Entre la venue du serviteur et celle des trois, il s'est passé un bon quart d'heure, ce qui a donné aux habitants de la maisonnette le temps de se préparer à recevoir les hôtes. Ceux-ci sont encore plus richement vêtus que le soir précédent. Les soies resplendissent, les gemmes brillent. Un grand panache de plumes de grand prix parsemé d'écailles encore plus précieuses étincelle sur la tête de celui qui porte le turban. L'un des serviteurs porte un coffre tout orné de marqueterie dont les garnitures métalliques sont en or buriné. Le second porte une coupe d'un travail très fin, couvert par un couvercle tout en or ciselé. Le troisième, une sorte d'amphore large et basse, en or également, avec une fermeture en forme de pyramide qui, à son sommet, porte un brillant. Ces objets doivent être lourds, car les serviteurs ont peine à les porter, spécialement celui qui est chargé du coffre. Les trois montent l'escalier et entrent. Ils pénètrent dans une pièce qui va de la route à l'arrière de la maison. On aperçoit le jardinier par derrière à travers une fenêtre ouverte au soleil. Des portes s'ouvrent dans les deux autres murs d'où regardent les propriétaires de la maison, un homme, une femme et trois ou quatre enfants entre deux âges. Marie est assise avec l'enfant sur son sein et Joseph debout à côté. Mais elle se lève aussi et s'incline quand elle voit entrer les trois mages. Elle est toute vêtue de blanc, si belle dans son simple habit blanc qui la couvre de la base du cou aux pieds, des épaules aux poignets délicats, si belle avec la tête couronnée de tresses blondes, en son visage que l'émotion couvre d'un rose plus vif, en ses yeux qui sourient avec douceur, avec une bouche qui s'ouvre pour saluer. Dieu soit avec vous. Les trois mages en restent un instant interdits, puis ils s'avancent, se prosternent à ses pieds et la prient de s'asseoir. Eux, non, ils ne s'assoient pas, malgré l'invitation de Marie. Ils restent à genoux, appuyés sur leurs talons. En arrière et à genoux aussi sont les trois serviteurs. Ils sont tout de suite derrière le seuil. Ils ont posé devant eux les trois objets qu'ils portaient et ils attendent. Les trois sages contemplent le bébé. Il me paraît avoir de 9 mois à 1 an tant il est éveillé et robuste. Il repose sur le sein de sa mère. Il sourit et jase avec une voix de petit oiseau. Il est tout vêtu de blanc comme la maman, avec des sandalettes minuscules aux pieds. Un petit vêtement très simple, une tunicelle, d'où sortent les petits pieds remuants, les mains grassouillettes qui voudraient tout saisir, et surtout le très joli petit visage où brillent les yeux d'azur foncé et la bouche qui fait des fossettes des deux côtés quand il rit et découvre ses premières petites dents. Les petites boucles de cheveux semblent une poussière d'or tant ils sont brillants et vaporeux. Le plus âgé des sages parle au nom de tous. Il explique à Marie qu'ils ont vu, une nuit du mois de décembre précédent, une nouvelle étoile qui s'est allumée dans le ciel avec une inhabituelle splendeur. Jamais les cartes célestes n'avaient porté cet astre ou ne l'avaient signalé. Son nom était inconnu. Elle n'avait pas de nom. Née du sein de Dieu, elle avait fleuri pour dire aux hommes une vérité bénie, un secret de Dieu. Mais les hommes n'en avaient pas fait cas, car leurs âmes étaient plongées dans la boue. Ils ne levaient pas leur regard vers Dieu et ne savaient pas lire les paroles qu'il trace. Qu'il en soit éternellement béni, avec les astres de feu sur la voûte des cieux. Eux l'avaient vu et s'étaient efforcés de comprendre sa voix. Renonçant de bon cœur au peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres, oubliant de manger, ils s'étaient plongés dans l'étude du zodiaque. Et les conjonctions des astres, le temps, la saison, les calculs des anciens temps et des combinaisons astronomiques leur avaient dit le nom et le secret de l'étoile. Son nom, Messie. Son secret, être le Messie venu au monde. Et ils étaient partis pour l'adorer, chacun à l'insu des autres. Traversant monts et déserts, vallées et fleuves, voyageant de nuit, ils étaient venus vers la Palestine, car l'étoile allait dans cette direction. Et chacun des trois points différents de la terre s'en allait vers cette direction. Et ils s'étaient trouvés ensuite ensemble au-delà de la mer morte. La volonté de Dieu les avait réunis là, et ensemble ils étaient allés de l'avant, se comprenant, bien que chacun parlât sa langue propre, comprenant et pouvant parler les langues des pays traversés par un miracle de l'Éternel. Ensemble, ils étaient allés à Jérusalem parce que le Messie devait être le roi de Jérusalem, le roi des Juifs. Mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville. Ils avaient senti leur cœur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de Dieu. Mais s'étant rassurés la conscience, ils étaient allés trouver le roi Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des Juifs qu'ils étaient venus adorer. Le roi, ayant réuni les princes des prêtres et les scribes, leur avait demandé où pouvait naître le Messie, et ils avaient répondu « À Bethléem de Juda ».